Bonjour à chacun. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, ce dimanche, en ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Ça fait quatre dimanches qu'on se réjouit, qu'on se prépare, qu'on attend avec impatience ces fêtes de Noël. Quatre dimanches qu'on parle de l'Avent, de la venue de Jésus. Alors peut-être pour certains, on se réjouit parce qu'on va pouvoir enfin déballer le cadeau qu'on attend depuis si longtemps, une année d'attente pour ce fameux cadeau. Pour d'autres, c'est peut-être l'occasion de voir enfin la famille qui habite loin et qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. Et puis il y a d'autres raisons encore. Et bien sûr, on se réjouit aussi parce que pendant ces fêtes de Noël, on célèbre, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, de sa venue sur la terre, sous la forme d'un petit bébé dans une mangeoire. Et puis moi, je pense que je me réjouis deux fois plus que vous, en fait, parce que mon prénom, Nathalie, signifie en fait « née à Noël », donc d'une certaine manière, je peux encore fêter un peu mon anniversaire à Noël de façon détournée, alors j'ai plus de chances de me réjouir que vous. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous aussi, ce que signifie votre prénom? Quel est le sens de votre prénom? Est-ce que vos parents vous ont donné votre prénom parce qu'il avait un sens particulier qui leur tenait à cœur? Est-ce que vos parents vous ont donné votre prénom parce qu'ils aimaient bien les sons, tout simplement? Moi, je pense que c'est plutôt le cas, ou alors mes parents pensaient que les bébés naissaient à 5 mois. C'était plutôt sûrement pour la sonorité qu'ils ont choisi Nathalie. Moi, je suis étonnée souvent quand... Enfin, je ne le fais pas souvent, mais je l'ai fait pour l'occasion. Quand on va voir les sites internet où on peut déchiffrer son prénom, il y a toujours des phrases du style « Découvrez le vrai sens de votre prénom et vous comprendrez qui vous êtes » ou des choses comme ça. Alors, c'est un peu mystérieux pour moi. Mais peut-être que parfois, nos parents choisissent nos prénoms par rapport à un sens. Anthony, par exemple, son prénom s'écrit sans H, ce qui est assez inhabituel. Et en fait, son père a choisi le prénom sans H parce qu'il avait calculé, Anthony vient d'une famille non chrétienne, et son père avait calculé avec la numérologie des lettres que s'il s'appelait Anthony sans H, il avait plus de chances de devenir médecin ou avocat qu'autre chose. Et puis en fait, pas de chance, parce que pour le coup, c'est vraiment ce que pense un peu son père, pas de chance, il a fini dans le ministère. Alors aujourd'hui, on va voir, j'aimerais lire avec vous un texte qui parle justement d'un prénom qui a beaucoup de sens, un prénom qui a été choisi pour le sens qu'il portait. Et ce texte se trouve dans le livre d'Ésaïe. Il nous parle de deux personnages en particulier, le prophète, Ésaïe, et puis le roi de Juda, qui s'appelle Akaz. Alors, c'est pas de ces prénoms-là que j'aimerais parler, mais d'un troisième personnage qui entre en scène dans ce texte. Juste pour situer un peu, avant qu'on lise le texte, pour mieux comprendre encore, le moment où ce texte a été rédigé, c'était un peu à la fin du 8e siècle avant notre ère, dans le royaume de Juda. Donc vous rappelez que le royaume de Juda s'était séparé à un moment donné du royaume d'Israël, qui était au nord, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur certains points. Et le royaume du sud, le royaume de Juda, avait gardé Jérusalem, la capitale, avait gardé le temple, où ils pouvaient célébrer des cultes à Dieu, et étaient restés globalement plus fidèles à Dieu que le royaume d'Israël, au nord, qui s'était petit à petit détourné, notamment dans l'idolâtrie. Et à cette époque du texte, le royaume d'Israël, plus la Syrie, décident de se mettre ensemble pour attaquer et détruire Juda, pour le rayer de la carte. Alors c'est une grosse crise, c'est un gros danger pour Juda. En plus, c'est un gros danger théologique, parce que si on raye de la carte Juda, on raye de la carte le temple, on raye de la carte la dynastie de David, les rois qui petit à petit se succédaient, descendants de David, comme Dieu l'avait promis au peuple, qu'il y aurait toujours un roi de la descendance de David sur le trône. Alors c'est une grosse crise pour le peuple. Il faut absolument résister à cette coalition d'Israël et de la Syrie pour un enjeu théologique. Et Ésaïe, alors que le roi s'inquiète beaucoup de cette situation, appelle le roi à faire confiance à Dieu, à placer sa foi dans Dieu plutôt que dans les forces militaires. Quelle sera la réaction du roi? Est-ce qu'il va accepter de placer sa confiance en Dieu? Ou est-ce qu'il va placer sa confiance ailleurs? Je vous invite à lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, les versets 10 à 17. Ésaïe 7, les versets 10 à 17. Le Seigneur dit encore à Akaz, donc le roi de Juda, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera du nom d'Immanuel, Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvantent sera abandonnée. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda. C'est le roi d'Assyrie. En fait, le roi Akaz choisit finalement de ne pas placer sa confiance en Dieu. Il choisit de faire allégeance avec l'Assyrie, un plus gros pays qui a des plus grosses forces militaires. Et en se soumettant à l'Assyrie, l'Assyrie lui promet aussi une protection contre Israël et contre la Syrie. Alors, je vais répéter ça parce que je me rends compte en le disant que ce n'est pas très clair. Juda fait allégeance avec l'Assyrie contre Israël qui, eux, avaient fait allégeance avec la Syrie. Voilà. Comme ça, ça sera plus clair, je pense. Mais Dieu, lui, à travers Ésaïe, il veut que Akaz fasse confiance à Dieu seul, qu'il trouve sa confiance, sa foi dans Dieu seulement. Et il lui propose même de choisir un signe pour prouver sa fidélité. Un signe qui soit dans la profondeur du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. C'est-à-dire, en fait, un signe aussi extraordinaire qu'il veut. Le roi peut choisir n'importe quel signe, le signe dont il a besoin, pour vraiment comprendre que Dieu est là, qu'il est fidèle, qu'il va prendre soin du peuple. Mais Akaz, au tout début de nos textes, offre une réponse qui est en fait teintée d'hypocrisie. Il prétend refuser le signe pour montrer qu'il ne veut pas provoquer le Seigneur. Je ne veux pas forcer la main de l'Éternel, je ne demanderai pas de signe. Mais en fait, c'est un choix délibéré du roi de ne pas demander de signe. Parce que peut-être qu'il a peur de ce qui pourrait se passer si vraiment un signe se manifestait. Si vraiment un signe se manifestait, il serait obligé de dire « Ah oui, il faut que je fasse confiance en Dieu. Il faut que je me détourne de cette confiance dans les forces militaires de la Syrie, dans cette confiance de ce peuple et ce royaume puissant. » Alors il préfère refuser de signe, comme ça il n'est pas engagé à suivre Dieu. Et de bien des manières, on peut comprendre son attitude. Il vit sous une pression énorme. Il doit protéger le peuple entier contre cette attaque d'Israël et de la Syrie. Et nous-mêmes, je ne sais pas comment on aurait réagi face à cette situation, de placer notre confiance seulement en Dieu, pas dans les forces militaires, pas dans la sécurité. Aujourd'hui, c'est un peu dur de se mettre dans cette situation-là parce qu'on ne vit pas dans ces circonstances de guerre, on ne vit pas dans ces circonstances de menaces sur notre vie, sur notre pays, sur notre peuple. Mais on pourrait comparer avec des situations actuelles un peu similaires, quand notre sécurité est quand même menacée, quand notre sécurité familiale, par exemple, est menacée, notre unité familiale est menacée, quand notre sécurité financière est menacée. On a souvent de très bonnes excuses pour placer notre confiance dans plein de domaines. Akaz aussi, lui, il avait une très bonne excuse, il devait prendre soin du peuple, même il devait prendre soin de la promesse de Dieu d'avoir toujours un descendant de David sur le trône. D'une certaine manière, il collaborait avec Dieu en essayant par tous les moyens de protéger le peuple et la dynastie de David. Mais ses plans humains, ce qu'il avait imaginé, pourtant, n'arrivait pas à la hauteur de ce que Dieu allait lui promettre ensuite dans le reste du texte. Aujourd'hui, est-ce que nos plans humains sont vraiment meilleurs qu'à l'époque? Ou est-ce que le plan de Dieu, parfois, souvent, toujours, dépasse de loin ce que nous, nous avons prévu? En tout cas, le roi Akaz, en faisant appel aux Assyriens, il a dû probablement penser faire le plus beau coup politique de toute sa vie. Un gros poisson, comme ça, dans l'océan, qui allait le protéger des petits requins. En faisant alliance avec l'Assyrie, ce que ne nous dit pas notre texte, le peuple s'engageait aussi au nom de son propre Dieu. Forcément, lorsque le peuple de Juda a décidé de faire alliance avec l'Assyrie, ils ont dû affirmer qu'ils s'engageaient aussi au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Ça voulait dire aussi qu'ils reconnaissaient que leur Dieu était moins puissant que les dieux du peuple qui les protégeait. Donc ça veut dire qu'ils plaçaient le Seigneur, notre Dieu, en soumission au Dieu assyrien. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas étonnant que Dieu choisisse d'intervenir, au lieu de dire, effectivement, peut-être qu'on pourrait utiliser la Syrie là, pour protéger le peuple de Juda. Mais non, ce n'est pas possible, parce que se lier à la Syrie, ça veut dire accepter que Dieu soit moins puissant que les autres dieux, que les idoles. Alors Dieu intervient. Et le refus d'Akaz d'avoir un signe ne suffit pas à décourager Dieu. Puisqu'Akaz ne veut pas recevoir de signe, eh ben c'est Dieu qui va en donner un quand même. C'est lui qui choisira le signe qu'il va donner. Finalement, Akaz, il refuse un signe ici, une promesse qui se situerait ici. Alors Dieu dit, ben, je te donne une promesse ici. Je vais te donner un signe ici. Et Dieu promet, pour sauver son peuple, d'envoyer un homme, ou plutôt un enfant, qui portera le nom d'Emmanuel, Immanuel. Dieu est avec nous. Immanuel. Il y a la fin L comme dans Elohim. Dieu est avec nous. Si vous portez un prénom qui finit en L, Gabriel, Michael, Daniel, vous avez probablement une signification en rapport avec Dieu. Et cet enfant-là, cet enfant promis, c'est lui-même qui est garant de la présence de Dieu, de la protection de Dieu pour son peuple. Protection de Dieu dans les difficultés, protection de Dieu sous la menace de ces gros peuples qui attaquent, protection de Dieu vis-à-vis des dangers, vis-à-vis de l'incertitude. À chaque instant de la vie de tous les jours de ce peuple, cet enfant sera le signe que Dieu est avec nous, Dieu est là. Alors qui est cet enfant ? À quelques jours de Noël, vous vous doutez où on va en venir. Mais à l'époque de ce texte, les lecteurs n'ont pas plongé pour comprendre que c'était Jésus, le Fils de Dieu. À l'époque de ce texte, on pourrait se demander si c'est un prochain roi, peut-être, de la dynastie de David, un descendant de David qui va venir, qui sera puissant, qui va délivrer le peuple, un roi qui sera juste. Par exemple, ça pourrait être le roi Ézéchias, qui vient peu après et qui a fait beaucoup de choses très bonnes et qui ont été appréciés par Dieu. Mais finalement, Ézéchias ne répond pas non plus à toutes les attentes qui sont portées sur cet enfant, aussi dans la suite du texte, toutes les promesses qui sont liées à cet enfant, elles dépassent de loin un homme. Finalement, dans ce texte, on ne peut que comprendre qu'il s'agit d'un homme, ou d'un homme-dieu, de quelqu'un de supérieur aux hommes, qui accomplit parfaitement le plan de Dieu pour les hommes. Et en particulier, c'est cette mention d'une jeune fille qui est enceinte. Alors dans ma traduction, ça dit « jeune fille », peut-être vous avez autre chose, peut-être parfois la Vierge sera enceinte. En fait, le mot qui est choisi là pour parler de jeune fille, il est toujours utilisé pour parler d'une ado, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, donc on déduit qu'il n'a pas encore eu de relation sexuelle. Donc ce texte parle d'une vierge, une vierge qui tombe enceinte. Et ça, c'est assez peu banal. C'est assez peu banal et ça nous laisse penser qu'il s'agit de quelqu'un qui dépasse de loin ce que les hommes sont capables de faire. Alors dans ce texte, 8 siècles avant la naissance de Jésus, qu'on va fêter dans quelques jours, Dieu avait déjà annoncé par Ésaïe qu'un sauveur viendrait, quelqu'un qui serait Dieu avec nous. Et non seulement un sauveur est annoncé, mais aussi une durée avant sa venue. et pendant sa venue, avec la référence au lait fermenté et au miel. C'est un peu difficile de comprendre ce que viennent faire ces mets dans notre texte. En fait, on peut le voir dans un verset un tout petit peu plus loin, le lait fermenté et le miel, ce sont les seuls aliments qu'on pouvait encore trouver dans un pays qui était dévasté, un pays qui avait été détruit, alors qu'il n'y avait plus de vignes, plus de cultures, plus de champs. On pouvait encore trouver un peu de lait qu'on laissait fermenter, on pouvait encore trouver encore un peu de miel sauvage. Alors l'enfant à naître allait vivre une dévastation dans son pays, puisqu'il allait se nourrir de lait fermenté et de miel. Quand ça, lorsqu'il saurait discerner entre le bien et le mal. Encore une fois, difficile à dire. À quel âge on sait discerner entre le bien et le mal? Pensez à vos enfants, à 6 ans, à 12 ans, à 25 ans, à 40 ans. Ça peut être très long parfois. Dans le contexte de l'époque, on peut penser que c'était pour dire à l'âge adulte, quand on devenait vraiment un homme et qu'on savait prendre ses décisions, porter ses responsabilités, discerner le bien et le mal. Donc le temps dont l'enfant aurait besoin pour discerner entre le bien et le mal, 12 ans, 16 ans, 20 ans, ça serait la même durée que le temps pendant lequel le pays serait en bonne forme, serait délivré. Et puis ensuite, il y aurait cette période de dévastation où on ne trouverait plus que du lait fermenté et du miel à manger. Peut-être aussi qu'on peut lire ce texte un tout petit peu moins littéralement, il ne s'agit pas de 20 ans tout pile, mais simplement pour dire pendant un certain temps, le pays ira bien, et puis ensuite, il y aura une grande période de dévastation. Et ces grands troubles, cette grande dévastation, elle est annoncée à la fin de notre texte par le roi d'Assyrie. La dévastation, elle est annoncée par le roi d'Assyrie. Ça ne vous semble pas un peu étonnant? Juda s'associe avec l'Assyrie pour que l'Assyrie le protège. Mais la dévastation, elle est annoncée par l'intermédiaire du roi d'Assyrie. Celui qui devait délivrer le peuple va finalement se retourner contre lui. Et l'histoire nous montre que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, puisque Juda a été protégé un temps par la Syrie. Effectivement, la Syrie a pris possession d'Israël et de la Syrie, ce qui accomplit aussi notre texte qui dit que le pays des deux rois qui menacent Juda sera exterminé. Et c'est vrai, ça s'est passé. La Syrie a supprimé ces deux pays, a envahi ces deux pays. Mais ensuite, puisque Juda n'avait plus besoin de protection, et ben la Syrie est allée un peu plus loin et a aussi envahi en partie Juda, jusqu'à terme amené à l'exil du peuple. Ce pays qui devait protéger Juda finalement s'est retourné contre lui. Et là on comprend pourquoi Dieu voulait protéger lui-même le peuple plutôt que laisser la Syrie protéger le peuple. Parce que Dieu lui aurait une protection parfaite pour toujours, alors qu'il savait que les autres peuples finiraient par se retourner aussi contre Juda. Alors ce texte nous apporte une bonne et une mauvaise nouvelle, ou en tout cas au lecteur de l'époque, il apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. À la fois une bonne nouvelle, un enfant, un envoyé de Dieu, qui sera sauveur, va arriver auprès du peuple. Et cet enfant, d'autres versets dans la suite d'Ésaïe, nous montrent que ce sera un roi. Ça sera un roi pour toujours, il accomplira la promesse de Dieu. Et ça, c'est une magnifique nouvelle pour le peuple qui a peur de perdre cette dynastie, qui a peur de perdre la promesse de Dieu. Maintenant, Dieu l'a dit, il y aura toujours un roi de la dynastie de David, moi je veille à ce qu'il y ait un roi. Mais en même temps, il y a une mauvaise nouvelle, puisque le peuple va quand même payer le prix des choix d'Akaz, la dévastation du pays par le roi d'Assyrie lui-même. Dans cette bonne nouvelle d'un enfant, on voit que la crainte d'Akaz de perdre le trône est remplie parfaitement par Dieu qui pourvoit lui-même à un roi, à ce trône. Un enfant, un roi qui est Dieu avec nous. Et ce roi sera même bien plus en fait que ce qu'on peut déjà entrevoir de ce texte. Et je vous invite à lire un deuxième texte dans Matthieu. Un texte très à propos pour notre période de Noël. Matthieu, le chapitre 1. Et c'est les versets 18 à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle lui mit au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Jésus, celui qui est né, que nous fêtons à Noël, est celui qui accomplit parfaitement cette promesse d'Ésaïe et d'autres promesses très nombreuses de l'Ancien Testament. C'est lui, celui qui était annoncé, le Messie, le messager de Dieu, Dieu lui-même avec nous. Il est ce Dieu avec nous, cet Emmanuel, Emmanuel. Là encore, ce n'est pas un prénom que l'ange a choisi parce qu'il aimait bien les sonorités. C'est un prénom qui revêt toute son importance, qui a un sens. C'est un prénom qui porte la réelle signification d'un Dieu qui prend part à notre vie, qui prend part à nos souffrances. Comme nous, Jésus, il a vécu une vie d'humain. Il a été soumis aux lois de la croissance, comme nous l'avons tous été, comme nous le sommes encore pour certains. Il a agi, il a aussi subi en homme, il a connu la fatigue, la faim, la soif, la colère ou encore l'angoisse. Et finalement, il a aussi éprouvé la souffrance, il a éprouvé la mort, et pas la plus agréable qui soit. Il a vécu parmi des hommes et des femmes, comme nous, seulement à une autre époque. Il a vécu parmi eux. Il a été ce Dieu avec nous, à chaque instant de sa vie. Et même en quittant ses amis, ses disciples, en quittant sa famille, en quittant chaque homme, chaque femme de l'époque, ses dernières paroles, les dernières paroles en tout cas de l'évangile de Matthieu, ont été « Je suis avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde ». Presque la première parole de l'évangile et la dernière parole de l'évangile, c'est « Je suis avec vous ». Dieu est avec nous. Ce Dieu avec nous, c'est Dieu qui choisit de vivre, de se faire pleinement homme, tout en restant à la fois pleinement Dieu. Quel mystère de ce Dieu qui vient sur terre, qui reste 100% homme, 100% Dieu, qui entre dans notre carapace fragile, pleine de souffrance d'être humain, tout en restant 100% Dieu. D'ailleurs, lorsque Joseph apprend que Marie elle est enceinte, son premier réflexe, c'est de décider de se séparer d'elle discrètement. Et puis finalement, sur conseil de l'ange, ils choisissent de rester ensemble. Mais imaginez-vous, pour la société à l'époque, ce couple qui n'était pas encore marié mais qui attendait déjà un enfant, c'était vraiment un couple qui devait être très mal vu. Et Jésus, ce Dieu avec nous qui décide de venir sur terre, choisit ce couple-là précisément pour venir sur terre. Il aurait pu choisir de vivre dans une famille noble, dans une famille de princes, mais il choisit ce couple mal vu, ce couple peut-être rejeté, pour venir sur terre. Pourquoi ? Pourquoi venir dans cette famille-là ? Dans cette famille, il grandit, il apprend le métier de son père, charpentier, et là encore, il aurait pu choisir une famille de médecins, une famille de chefs religieux, une famille de rois, il aurait pu choisir ce qu'il voulait. Mais il vient dans une famille qui a un métier pas forcément noble. Pourquoi ? Et même jusque dans sa mort, Jésus montre combien il a été avec nous. Il aurait pu venir aujourd'hui, dans un pays qui pratique la peine de mort, et simplement sa peine de mort aurait été une... Enfin, simplement, on ne peut pas dire ça, mais sa peine de mort aurait été une injection létale, par exemple, sans souffrance. Mais non, il choisit de venir à une époque où la mort, c'est la crucifixion. Il choisit de subir les 39 coups de fouet des Romains, de subir la torture, la moquerie des Romains, la croix. Pourquoi ? Il n'y a pas de réponse à ces questions, si ce n'est que ça a été un Dieu avec nous, à chaque moment. Ça reste un mystère. Saint Athanase a dit « Un Dieu compréhensible ne serait pas un Dieu. » Un Dieu qu'on pourrait comprendre ne serait plus un Dieu. Et c'est tout cela que Dieu promettait en Ésaïe et qu'il a accompli par la venue de son fils Jésus. De nouveau, Akaz attendait une réponse de Dieu ici, une protection de Dieu ici, un signe ici, qu'il a même refusé. Mais Dieu, lui, il a promis un signe ici, même pour nous. Il a promis une réponse ici, une solution à la souffrance, une solution au danger qui se trouve ici. Alors ce Dieu qui est avec nous, ce Dieu qui est venu vivre avec nous à travers Jésus, c'est ce Dieu aussi qui nous offre, par son sacrifice à la croix, le pardon pour nos péchés, qui nous offre un lien intime avec le Père. Il n'est pas seulement venu protéger son peuple, mais il est aussi venu offrir le pardon des péchés, un accès à la vie éternelle. Et puis, par la suite, Jésus promet encore l'Esprit Saint en nous, et c'est ce Dieu avec nous, une étape de plus dans ce processus, ce Dieu qui vient habiter en nous par l'Esprit Saint. Et Dieu est avec nous chaque jour. Il a été avec nous chaque jour en 2015. Il sera avec nous chaque jour en 2016. Et c'est tout ça que nous fêtons à Noël. C'est toutes ces choses qui nous permettent de nous réjouir à Noël. Et peut-être que vous avez vécu quelque chose de très fort en 2015 avec Dieu. Et que vous souhaiteriez le partager. Et dimanche prochain, il y a un culte témoignage. Et c'est l'occasion aussi d'apprendre les uns aux autres ce que nous avons vécu avec Dieu, comment Dieu est avec nous chaque jour, aujourd'hui encore. Et puis, bien sûr, on peut difficilement se souvenir de la venue de Jésus sans penser justement à toute son œuvre et puis aussi à la promesse qui va avec, celle de vivre un jour dans la présence de Dieu pour toujours, d'être à côté de ce Dieu qui est avec nous et d'être nous-mêmes avec lui. Et à ce moment-là, ce sera vraiment Dieu avec nous, parfaitement, pleinement. Alors, à quelques jours de la fête de Noël, on peut se rappeler ce que nous célébrons lorsqu'on admire ce petit bébé dans une mangeoire, dans une jolie crèche. On peut se rappeler que ce petit bébé, c'est l'Immanuel, ce Dieu avec nous. C'est celui qui représente le cadeau tout particulier que nous avons reçu de Dieu. On se réjouit de nos cadeaux de Noël, nos cadeaux qui sont là, et Dieu nous promet un cadeau qui est ici. C'est ça le vrai cadeau. C'est un Dieu avec nous dans la joie, un Dieu avec nous dans la tristesse, un Dieu avec nous lorsque nous fêtons en famille, un Dieu avec nous lorsque nous célébrons entre amis. À chaque instant, c'est ce Dieu avec nous. Alors réalisons pendant ces fêtes de Noël que Dieu est avec nous, vraiment. Et apprenons aussi à lui laisser la place d'être là, avec nous, et de profiter de sa présence. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour toutes tes promesses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Merci parce que tu as promis d'être ce Dieu avec nous depuis longtemps. Tu es venu accomplir cette promesse en envoyant ton Fils sur terre. Et aujourd'hui, tu es encore ce Dieu avec nous, chaque instant, à nos côtés, en nous. Et nous n'avons rien fait pour mériter cela, c'est pure grâce de ta part. Et Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ce cadeau que tu nous fais. Nous voulons te glorifier, t'honorer pour ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons aussi t'inviter dans nos familles, parmi nos amis, lorsque nous fêtons Noël. Sois parmi nous, Seigneur, et apprends-nous à discerner, à reconnaître ta présence et à la vivre à chaque instant. Amen.